c'est le temps per année, pendant l'année. Et l'année, c'est quoi? Pourquoi une année? On sème. Donc c'est le temps de la fécondité. Et dans l'ancien calendrier, du rite extraordinaire, c'est le temps après la Pentecôte. C'est la même chose, l'Esprit Saint, c'est pour que nous portions les fruits. Et l'année, c'est pour porter des fruits. Une année de bienfaits. Hein, quand même. Une année de bienfaits. C'est-à-dire pour que ça porte du fruit. C'est autre chose que le temps ordinaire. Ordinarius, hein, ça veut dire selon le déroulement chronologique. Mais c'est matériel, ça, vous voyez. L'année, au sens fort, est-ce que l'année sera bonne? Ben, on pense à des récoltes. Vous voyez. Notre vie chrétienne est appelée, elle est ensemencée dans le baptême, elle est appelée à porter des fruits. C'est pour ça que vous verrez qu'au chapitre 14, vous l'avez vu, le jugement particulier, c'est une grande récolte, de la première à la dernière récolte, de la moisson à la vendange. Donc tout est récolté. Donc vous voyez, il y a une béatitude pour le lecteur et l'auditeur de ces paroles. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être coopérants et éveillés dans cette lutte à mort. C'est une lutte à mort. Pourquoi? Parce que déjà, dès les origines, vous le voyez dans la Genèse, puisque l'homme est destinataire unique d'une telle plénitude d'amour, il est l'objet d'une terrible jalousie. C'est la tentation de Satan, du serpent dans la Genèse, et qui fait que depuis que l'homme existe, il y a une lutte acharnée de jalousie entre Lucifer et les anges et les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes les plus appelés à porter la fécondité et la responsabilité de l'amour divin. Si l'amour ne nous avait pas été communiqué, il n'y aurait pas une lutte à mort. C'est beau, parce que si on regarde que la lutte, on se dit, oh là, c'est horrible, je n'ai rien fait, je n'ai pas demandé d'exister, moi je ne veux pas rentrer dans un truc de lutte, et puis moi je n'ai pas envie de naître, et puis si c'est trop pénible, moi je m'en vais. Si je vois qu'il s'agit du lutte parce qu'il y a une très grande communication de l'amour, ah d'accord, j'ai compris. Donc dans la lutte, je vais connaître de plus en plus profondément l'amour, et à travers cette lutte, je vais connaître cet amour tel que le Christ nous le révèle, c'est-à-dire il est résurrection. Il est résurrection. L'amour qui nous a été communiqué est résurrection. L'amour est plus fort que la mort, dit le cantique des cantiques, des fleuves ne peuvent éteindre. Cantique des cantiques. Et la croix nous montre que l'amour est plus fort que la mort et se sert même de la mort pour se révéler. Et donc nous allons suivre le même chemin que le Christ. Alors c'est comme ça, c'est cette grande révélation que reçoit Jean, qui est le dernier des apôtres. Tous sont morts. C'est quelque chose de rester le dernier. Et il doit préparer l'Église à vivre sa mission profonde. Et on l'aperçoit, la mission. Si on regarde l'histoire de l'Église, on la voit déjà dans le passé, mais l'on voit bien que ce qui nous attend maintenant semble extrêmement important. C'est vrai. À plus d'un titre. Y compris parmi les religions et y compris parmi l'humanité dite athée, et par rapport à tout envisager un avenir qui est purement économique, scientiste, rêvé d'un surhomme, hein, l'homme augmenté, enfin, tout ce que l'homme actuellement veut, dans lequel il veut s'engager en pensant qu'il sera plus heureux comme ça, en étant branché à des ordinateurs, en ayant une mémoire éléphantesque, et des performances, je ne sais pas quoi, cognitives, affectives, biologiques, augmentées. Vous pensez qu'on sera plus heureux? Hein? Bon. Donc vous avez vu, alors il manque, je pense, la tapisserie, oui, de Jean dans l'île de Patmos. Je crois qu'elle est, elle est. Mais vous avez une très belle peinture de ça, dans Jean dans l'île de Patmos. Vous savez, à Bruges, hein? Vous voyez, de ces mêmes lignes qui montrent Jean. Alors, dans une seule tableau, vous avez pratiquement toute l'Apocalypse. Vous voyez Jean qui est dans l'île de Patmos. Pourquoi? Parce qu'il est en exil, parce qu'il est persécuté. Selon la tradition, il vient de Rome où il a subi un martyr, c'est-à-dire trempé dans l'huile bouillante dont il est ressorti vivant. On oublie souvent que d'ailleurs le témoignage des apôtres à Rome, c'est pas seulement Pierre et Paul, c'est aussi Jean. Mais Jean témoigne pas par sa mort, il témoigne par la vie. Donc il ressort frais comme un gardon ou comme une frite non cuite de l'huile bouillante. Et donc devant cette chose-là, invraisemblable, on l'exile à Patmos. Et il le dit d'ailleurs, il ne dit pas ce qu'il a vécu avant. Moi, Jean, verset 9, chapitre 1er, et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc il est martyr. Un témoin, les martyrs, c'est la même racine. Et il tombe en extase, et c'est toute la grande lumière que vous n'avez pas vue dans ces tapisseries, c'est que toute l'Apocalypse est éclairée par une grande vision, c'est du Christ en gloire, le Christ glorieux. C'est-à-dire la plénitude et la victoire de l'amour comme miséricorde qui éclaire tout le mystère de l'Église, toute sa mission, tout son combat et toute sa fécondité. Je regarde toujours, c'est d'ailleurs un des accents de la réforme liturgique, d'être illuminé par le mystère pascal et donc par le Christ glorieux. Nos frères orthodoxes sont fascinés, eux, par la lumière taborique, le tabor. C'est la même chose, c'est une annonce de ce qui va se passer à la croix. C'est un tabor non pas charismatique, c'est un tabor substantiel, puisque l'amour se sert de la mort pour se révéler dans sa gloire, donc dans sa victoire. Donc vous avez cette vision, là je me retournais, il y a une trompette là, une voix clamée comme une trompette, ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises, qui sont les sept églises de Jean, c'est les églises d'Asie mineure. Non pas que Jean soit fondateur de ces églises, mais il en est comme le patriarche. Selon toute vraisemblance, Jean était avant Paul à Éphèse, mais il n'a pas évangélisé Éphèse, c'est Paul qui a évangélisé Éphèse, mais Jean avait quelque chose de plus radical à vivre, c'est-à-dire se laisser enfanter par Marie. Si vous avez été à Éphèse, vous voyez la maison de Marie qui est à une quinzaine de kilomètres d'Éphèse, dans la montagne. Là se noue dans le secret la communication la plus profonde du mystère du Christ qui va nous donner l'évangile ultime, l'évangile de Saint Jean, et qui est plus utile pour l'Église, plus utile dans la profondeur et dans la durée que d'évangéliser Éphèse, ce que fait Saint Paul. Après, quand il sera de retour de Patmos, Jean, et peut-être avant d'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'il a été sous Domitien, puisque Domitien aimait beaucoup Éphèse et subventionnait, c'est le premier empereur qui s'est vraiment pris pour un dieu. Et si Jean était à Éphèse, on peut penser qu'il n'a pas laissé passer ça très facilement, que l'empereur était vraiment un dieu et qu'il a été convoqué et puni à Rome. Et après, il va revenir à Éphèse. Donc c'est très beau de voir cette vision, vous voyez, du Christ. Je me retournais, regardais la voix qui me parlait. Je vis sept candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, le Christ, revêtu d'une longue robe serrée à la taille, une ceinture d'or, c'est une ceinture sacerdotale. Une robe serrée à la taille, c'est une robe et une ceinture sacerdotale. C'est le sacerdoce du Christ. C'est un sacerdoce d'amour, ce par quoi il nous sauve et il nous ressuscite. Nous qui étions morts pour qu'on devienne vivant de sa propre vie. Sa tête avec des cheveux blancs, qui est comme de la laine blanche. Vous voyez, tout l'Apocalypse, vous l'avez eu, c'est pour ça que c'est des images, et sous un langage symbolique. C'est pour ça qu'il est difficile à comprendre et qu'il faut s'en imprégner et apprendre à lire les symboles dans le vrai sens, parce que tout symbole peut s'interpréter de façon antinomique. L'eau, par exemple, vous voyez, pour le baptême, par exemple, l'eau, c'est l'eau de la mort, comme ça peut être l'eau de la vie. L'eau qui nettoie, l'eau qui vivifie. L'eau de la mort, c'est négatif. L'eau qui vivifie, c'est positif. Donc, on voit bien la sagesse. Les yeux comme une flamme ardente. Hein, il est perspicace. Dieu sont les reins et le cœur. Hein. Ses pieds, pareil, il y a de l'airain précieux. C'est juste l'inverse. Vous vous rappelez de la statue qu'avait vue Nabucodonosor, un colosse au pied d'argile. Le Christ n'est pas un colosse au pied d'argile. Tous nos empereurs de la terre sont des colosses au pied d'argile. Ils finissent tous par s'effondrer un jour. Ouais. Donc de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux, vous verrez que cette voix des grandes eaux, vous savez, vous allez au bord de la mer, vous voyez ça. Cette voix des grandes eaux, c'est une voix qui parle dans l'Esprit Saint. Les grandes eaux, le mugissement des grandes eaux, c'est un symbole de l'Esprit Saint. Il y a une ampleur dans la voix du Christ, incroyable. De sa main droite, il a cette étoile, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Rappelez-vous dans l'épître aux Hébreux que nous lisons actuellement dans la féerie, l'épître à double. L'épée à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. Elle coupe jusqu'à la jointure des moines. Hein. C'est une parole de vérité qui discerne tout. Hein, double tranchant. Vous l'avez d'ailleurs là, vous la voyez là, le Christ au glaive, là. Vous vous rappelez, vous avez vu le Christ avec. Bon, évidemment, il faudrait. L'Apocalypse, je pense, c'est quelque chose qu'il faudrait montrer en cinéma. Parce qu'il y a des plans temporels qui se chevauchent. Et au fond, c'est comme une extraordinaire aventure qui s'achève dans la victoire finale. C'est pour ça que quand vous le voyez dans deux dimensions, les deux dimensions ne suffisent pas à bien exprimer cela. Donc vous voyez, quand vous voyez le pauvre Christ avec son épée dans la bouche, c'est un peu particulier. Mais c'est sa parole qui est un glaive, vous voyez ce que je veux dire. Et son visage est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. C'est le Christ ressuscité qui est le soleil du jour de l'Église. La seule lumière que nous ayons, ce n'est pas les médias, ce n'est pas tout ce qu'on raconte, c'est parce que nous cogitons, c'est le Christ ressuscité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, tout ça pour vous dire que tout ce temps de l'Église est éclairé par la présence glorieuse du Christ. C'est le Christ victorieux de la croix, victorieux d'amour, et dans la vérité de l'amour, auquel tout homme est prédestiné. Alors on voit Jean qui, devant cette présence, tombe à ses pieds, quoi. Il adore. Comme mort. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant les clés de la mort et de la death. Est-ce que nous le croyons? Ça veut dire, est-ce que notre vie s'appuie là-dessus? C'est pas vivre et croire, c'est devenir vivant de ma foi. Et ma foi, c'est le Christ vivant, donc ressuscité. Donc, amour plus fort que la mort. Invincible. Invincible d'amour, hein, pas invincible de force. C'est pas les Kalachnikov, non? D'amour. Invincible d'amour. C'est pas une invincibilité d'efficacité. C'est l'amour qui est plus efficace. Vous voyez? Donc, avant que s'ouvre cette révélation, vous l'avez vu dans une des tapisseries, il y a les sept églises. Hein, ce regard sur les sept églises, qui est comme un scanner ou un IRM, ou comme vous voulez, le diagnostic en profondeur de l'église, des églises de Jean, à travers lesquelles, qui sont les églises, normalement, j'allais dire, qui ont comme patriarche l'apôtre qui est le disciple bien-aimé. C'est pour ça que c'est par excellence le lieu où l'Église va pouvoir connaître ses maladies. Alors, l'Église a eu un scanner il n'y a pas très longtemps, hein, Hein, pour la curie, hein, c'est, vous avez parlé de ça. C'est un scanner, c'est pas... Voilà, 15 maladies. Alors, il y en a 7 dans l'Apocalypse, voyez. Ou 7 tentations. Et c'est très important de voir les, voyez, les maladies qui touchent l'Église et les tentations qui touchent l'Église. L'Église est, est tentée parce que, par exemple, hein, voyez, d'abord, le pape en a parlé il y a 2 jours, le fait que nous avons quitté notre premier amour. Nous avons perdu la ferveur première, l'Église d'Éphèse. Je ne suis plus dans mon premier amour. C'est comme dans le mariage. Je me dis, oh, je me suis marié à 50 ans. C'est vieux le mariage, alors que le mariage est actuel. Et il devrait être plus intense, voyez, plus profond. L'Église, plus elle avance, plus elle devrait être dans la maturité de l'amour. Mais selon le temps passe, plus, bah oui, on se fatigue, c'est la routine et tout ça. Puis voilà, ça se tiédit. Éphèse fait tout très bien, sauf, qu'est-ce qu'il lui est dit ? Tu as perdu ton amour d'antan, tu as perdu ton premier amour. Ensuite, il y a d'être l'épreuve d'être, oui, de la pauvreté, les diffamations, les souffrances, les épreuves. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne, l'Église de Smyrne. Ne nous étonnons pas d'être dans l'épreuve, ça fait partie de notre vie. Nous rêvons toujours le paradis sur terre. Non, non, il n'a jamais été. La terre n'a jamais été le paradis de l'homme, c'est pour ça qu'on dit le paradis terrestre. Le vrai paradis de l'homme, c'est Dieu. Hein ? Mais nous, quand on dit paradis, on pense toujours paradis terrestre. Donc, dit qu'il y a des épreuves, on est déçu, on est déprimé, on est tout ce que vous voulez. Non, Smyrne, je connais tes épreuves. Puis ensuite, il y a tout un rapport par rapport à la vérité, hein ? L'Église de Pergame, la doctrine. Oui, Benoît XVI a beaucoup travaillé sur le fait de mettre tout en ordre dans l'ordre de la vérité. Parce que s'il n'y a pas de vérité, il ne peut pas y avoir d'amour. Le relativisme ne peut jamais servir l'amour. Thyatire, eh bien, on fait des mélanges. Vous voyez, on se sert de la vérité, mais on fait des entorses comme on veut, on se débrouille. Oui, c'est l'aspect très politique, vous voyez. Oui, on connaît la vérité, mais on agit autrement. Les magouilles, la politique, les trucs, voilà, oui, mais enfin, il faut bien être humain, on est bien dans le monde, il faut bien faire comme tout le monde, etc. Qui attire. Sardes, c'est l'illusion absolue. Tu passes pour vivante, mais tu es morte. Il s'agit de l'Église. Tu passes pour vivante, mais tu es morte. C'est un diagnostic terrible, ça. Hein? Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Parce que, vous voyez, ce diagnostic premier de l'Église, parce que l'Église va être appelée à vivre ce combat de l'amour. C'est pour ça que c'est très important qu'elle soit lucide sur ses maladies et sur ce qui tente l'homme. Ce qui tente l'homme, t'y attire, c'est d'être dans l'épreuve. Et Philadelphie, c'est une autre tentation, c'est d'être dans la faiblesse. Disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Aujourd'hui, il faut être puissant. Si vous n'êtes pas puissant, vous n'êtes rien. Le chrétien, il n'est pas quelqu'un par sa puissance. Hein, Saint Paul l'aura dit, il l'a exprimé, il l'a touché dans ses fibres. C'est quand je suis faible que je suis fort. Est-ce qu'on peut. Vous voyez, quand il dit ça, il nous communique quelque chose d'extrême. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et puis la dernière église, la 7e église, la Odyssée, ça c'est la situation spirituelle la plus dangereuse qui soit. C'est l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'au fond, je n'ai plus besoin du Christ. J'ai besoin de rien. Je n'ai ni chaud ni froid vis-à-vis du Christ en fait. Ouais. Il ne me manque rien. C'est l'illusion la plus totale. La Odyssée. Il faut souvent lire. Alors, Jésus dit, tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais tu ne le vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, etc. viens acheter un collier que tu vois un peu clair, que tu revêtes une autre robe que je vais te donner. Et puis, voilà, ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Vous voyez, on est dans cette phase, hein, avec notre pape. Hein. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Parce que si nous ne nous laissons pas corriger ni semoncer, nous ne pourrons pas porter l'humanité jusqu'à la venue glorieuse du Christ. C'est à l'épouse qu'il s'agit de porter tous les enfants de la miséricorde vers le Christ qui vient. À la fin, qui parle, qui dit vient, c'est l'épouse de l'agneau. L'Église, c'est l'épouse de l'agneau. Nous devons devenir, homme ou femme, épouse de l'agneau. Donc, œuvrer dans l'œuvre même de l'amour de l'agneau. Donc, du Christ qui dans le grand labeur du salut et de la croix, et que Marie vit dans son mystère de compassion. Ça va ? Donc là, on est dans ce moment préparatoire. Maintenant, on va s'ouvrir au sens fort l'Apocalypse, avec cette ouverture du ciel. C'était la quatrième tapisserie que vous avez vue. Là, c'est une très belle vision de la création dans une vision d'économie divine. Vous vous rappelez que vous avez vu des rois qui jettent leur couronne et tout ça. Hein ? Vous voyez que c'est une vision de la Trinité économique. Économique, ça ne veut dire pas des sous, mais selon l'économie divine, selon le dessein de Dieu et la conduite de Dieu sur l'humanité. Vous voyez, on pourrait regarder en détail pourquoi 24 vieillards, c'est 2 fois 12. 12, ça vous fait penser à quoi d'abord? Les 12 tribus d'Israël. Et 12, ça vous fait parler aux 12 apôtres. Donc vous voyez que la première et la nouvelle alliance sont présentes dans cette conduite de Dieu. Et qu'il y a un hommage à la paternité de Dieu qui est celui qui est sur le trône. Que vous avez vu dans ce petit phrase. Le trône, c'est le siège du Père. Les quatre vivants signifient l'incarnation. Le Verbe se fait chair. Vous aviez devant le trône un étang de cristal qu'on peut attribuer à la place de Marie et au mystère de Marie, puisque la maternité divine de Marie est essentielle dans l'économie divine. Le Verbe se fait chair par la femme, et on verra que la femme a un rôle tout à fait capital dans ce mystère de l'Église. Et si vous avez suivi les catéchèses précédentes, puisque là il fait une catéchèse sur la famille maintenant, pour nous préparer à la deuxième partie du synode, mais la catéchèse jusqu'à présent c'était sur l'Église, et il regardait beaucoup l'Église comme étant la femme. Et vous verrez qu'au sommet de l'intelligibilité des luttes se trouve la femme, au chapitre 12, la femme face au dragon, vous vous rappelez, vous avez vu ça sur une tapisserie. Et donc vous avez toute la création qui est orientée et qui vient de ce trône qui vient du Père. Si vous regardez le prologue de Saint Jean, vous voyez que tout vient du Père. Tout vient d'un dessein d'amour du Père. Et que toute cette conduite de miséricorde et d'amour du Père va passer par l'agneau. Vous voyez dans l'Apocalypse la place centrale de l'agneau, c'est-à-dire de celui qui est la victime d'amour offerte. Donc c'est le Christ crucifié et glorifié. Vous voyez, le Christ crucifié et glorifié va se représenter symboliquement dans l'Apocalypse par l'agneau. Et un agneau comme égorgé. Alors j'ai vu debout entre le trône aux quatre vivants et les vieillards un agneau comme égorgé. Un agneau égorgé qui est debout, c'est bizarre. Vous savez, quand il est égorgé, normalement il n'est plus debout. Donc l'agneau égorgé et pourtant debout, c'est le Christ offert et pourtant vivant. Mort et pourtant vivant. S'il est debout, c'est qu'il est vivant. Toute l'économie divine passe par la croix, donc par le sacrifice d'amour du Christ. C'est le mystère de l'agneau. Dans l'économie divine, l'agneau est absolument central. C'est pour ça que nous, comme chrétiens, c'est très... Saint Paul dira, la croix est notre sagesse. Et c'est pour ça que c'est le Christ glorifié, il est glorifié du fait de la croix qui éclaire toute l'Apocalypse, et dans l'économie divine, nous voyons que c'est l'agneau. Et que c'est l'agneau qui va ouvrir le rouleau qui est scellé, vous voyez, par des sceaux. Parce que vous avez vu les pleurs de Jean quand Jean pleure, hein, vous avez vu les larmes de Jean, pourquoi il pleure? Parce qu'il est dit, ben voilà, que personne n'était jugé digne d'ouvrir. Hein, je vis de la main droite de celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire le Père, un livre roulé, écrit au recto et verso, c'est-à-dire tout est rempli, c'est-à-dire c'est la prédestination, c'est notre prédestination. Et notre prédestination est dense. La prédestination de l'homme est dense. Notre vie est dense. Et nous sommes les seules créatures qui pouvons perdre notre temps. Vous voyez ça? Les vaches ne peuvent pas perdre leur temps, ni les anges. Mais nous pouvons perdre notre temps. Le moindre jour de notre vie est précieux. C'est écrit au recto et verso. Notre prédestination. Hein? Et c'est le Père qui porte cette prédestination, scellée de sept sceaux. Et alors l'ange, il dit, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Personne. Et j'en pleure. Personne. Que pouvons-nous? Vous voyez, ça nous éclaire beaucoup sur l'homme qui envisage son avenir en dehors de toute lumière de sagesse. C'est comme si je voulais envisager l'avenir sans pouvoir ouvrir ces sept sceaux. Les larmes de Jean nous disent que seule la prédestination qui nous vient du Père peut éclairer véritablement notre vocation, notre avenir, notre vraie fécondité. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il pleure. Que personne ne puisse ouvrir. Si ce livre ne peut pas être ouvert, alors l'homme ne pourra coopérer en rien. Donc son mystère lui échappe. Vous comprenez l'enjeu de ça? Pourquoi il pleure? Les pleurs de Jean sont très importants. Et je pleurais fort. Hein, ce n'est pas un petit pissou de larmes. Il pleure fort. Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux sept sceaux, qui est le lion de Juda. C'est Jésus. Tel que saint Matthieu nous le laisse voir. Hein. Saint Matthieu, c'est celui qui nous donne le Christ comme achevant tout ce que nous annonce déjà la première alliance. Alors, on voit l'agneau. Il s'en va prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône, et puis, alors quand il l'ouvre, quand il le prend, les vieillards se prosternent devant l'agneau, et ils chantent, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ce sont ces cantiques du Nouveau Testament que nous chantons à l'office de Vêpres, hein, toute la semaine. Ça, on les connaît, ces cantiques de l'Apocalypse. C'est des cantiques de gloire, hein, c'est des cantiques de victoire. Il est digne, l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous voyez la place de la croix. Hein, il faut la mettre dans nos cœurs, notre foi. Hein, c'était le premier homélie faite aux cardinaux du pape François après son élection. La place de la croix. Alors, l'agneau va briser les sceaux. Et alors, vous vous rappelez, vous avez vu des cavaliers. Quatre cavaliers. Cavalier blanc, cavalier rouge, cavalier noir, cavalier verdâtre. Donc, cheval aussi, il y a cavalier et cheval. Ces sept sceaux, qu'est-ce qu'ils expriment? Notre prédestination. À travers quoi notre mystère personnel va se réaliser. C'est ça une prédestination. Hein? C'est à travers quoi notre vocation profonde va se réaliser. Alors vous voyez que le premier cavalier, hein, le premier sonar, donc c'est les sept vivants qui les quatre vivants qui appellent les chevaux là. Le premier vivant, c'est un lion. Hein, vous vous rappelez? Il y vient et je vois un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, on lui donnait une couronne et il partit en vainqueur pour vaincre encore. Ça veut dire quoi? S'il est vainqueur pour vaincre encore, c'est qu'il y a des batailles constantes à mener. Vous comprenez ça? Oui, vainqueur, mais pour vaincre encore. Parce que s'il était vainqueur et il n'y avait pas à vaincre encore, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de bataille à mener. Le chrétien est appelé chaque jour à mener des batailles après bataille. La victoire de l'amour s'accomplit à travers ce devenir de bataille à bataille. Et vous comprenez que l'Apocalypse ne regarde pas seulement les premières décennies qui ont suivi le problème de l'Empire romain, de tout ça. Ça nous ferait une belle jambe de savoir que c'était Néron et que tout ça. Non, ça éclaire toute l'histoire de l'Église, tout ce temps de l'Église. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est plus proche de la fin. Et l'Apocalypse est plus lisible pour nous maintenant qu'au premier siècle. Parce que nous voyons se réaliser d'une façon beaucoup plus manifeste ce qui, au départ, était beaucoup plus partiel. Vous voyez ? Nous pouvons concevoir un ébranlement du monde entier. Il y a même encore un siècle, c'était plus difficile à concevoir. Bon, à 14-18, on a commencé à faire la connaissance avec une guerre mondiale, mais regardez la guerre mondiale de 14-18 et ce que ça fait maintenant. Hein ? Et on n'est pas vu le bout. Donc le deuxième, le troisième et le quatrième cavalier, saut et donc les cavaliers, nous montrent aussi que nous sommes prédestinés à travers des fragilités, des failles qui nous viennent du péché originel, des conséquences du péché originel, ce qu'on appelle les trois concupiscences. Vous savez, on voit les trois concupiscences, c'est dans la première épître de Saint Jean. Concupiscence de la chair, le cavalier verdâtre, hein, la putréfaction. La concupiscence des yeux, c'est la vaine gloire, hein. C'est paraître, c'est avoir tout pour soi, c'est être le plus riche, le plus, tout ce que vous voulez. Et vous voyez que ça correspond au cavalier, au cheval noir, parce que tout est mesuré. Vous voyez, regardez chez nous, on est dans l'abondance. Hein. L'Europe est le lieu le plus riche du monde. C'est le lieu le plus en faillite. C'est la logique. Si moi je veux tout pour moi, et s'il ne compte que ce que j'ai, nécessairement, il n'y a rien pour tout le monde. Vous comprenez ça? Et donc c'est la famine. Un développement déréglé de la convoitise des biens provoque la misère. Et c'est vrai en nous-mêmes. Et puis il y a la convoitise spirituelle, la convoitise, l'orgueil de la vie, qui est le cheval rouge, et avec le cavalier rouge, c'est la colère. Qu'est-ce qui nous met? Et la domination. Et ça, c'est l'orgueil. Nous devons tous connaître et lutter contre un penchant orgueilleux. Hein? Donc, nous avons tous en nous un déséquilibre foncier par rapport entre l'esprit et la chair. Nous avons une connaturalité terrible avec ce qui est sensible. Et ce qui n'est pas sensible nous éprouve toujours. Hein, quand on dit « je sens rien, je vois rien », pour nous c'est pénible. De même, nous avons une connaturalité à vouloir rayonner sur les autres, qu'on nous remarque, qu'on ait une place, que je sais pas quoi, qu'on nous admire. La réussite aujourd'hui, regardez, la réussite. T'as fait quoi comme étude? Bac plus je sais pas quoi. De mon temps, on disait pas bac plus je sais pas quoi. T'as fait quoi comme étude? C'est ça qui était intéressant. C'est pas bac plus je sais pas quoi. Mais c'est quoi? Plus quoi? Mais t'as fait quoi? C'est pas bac plus 7. T'as fait quoi? Vous voyez ça? Plus. Hein? Super. Et puis après, c'est nul. Hein? La bipolarité, elle sort d'où? Mais c'est ça. Voilà. Et ceci, ça passe par là, vous comprenez ça? Notre sainteté passe à travers une victoire et petit à petit une assomption de ces convoitises vers quelque chose qui est converti. Un nouveau sens du corps, un nouveau sens des autres. Vous voyez, dans la charité, regarde pas les autres comme étant simplement ceux qui vont m'admirer ou devant lesquels je vais pouvoir faire le pan, hein, voyez, la roue du pan. Hein. Non, les autres, c'est qui vais-je pouvoir aimer? Pour qui vais-je donner ma vie? Vous voyez, c'est autre chose. Vous voyez la différence, hein? Et puis l'orgueil, saint Paul va témoigner combien son orgueil a été comme... Sa pente orgueilleuse a été transformée. Il va dire, mon orgueil, c'est le Christ. C'est plus moi. Hein? Le cinquième sceau, c'est le témoignage, c'est le martyr. C'est-à-dire que nous sommes appelés à donner notre vie pour témoigner du Christ. Je témoigne du Christ au péril de ma vie. Vous comprenez ça? Cinquième sceau. C'est pas toujours le martyr sanglant, hein? Mais par le péril de ma vie, ben, vous témoignez du Christ, ben, on va dire, écoute, si tu es trop bon ou trop miséricordieux, ben on va te mettre dans un placard, dans ton entreprise, parce que ça va être témoigné. Si je le vis comme ça, si je me morfonds parce que je suis dans le placard, c'est dommage. Vous voyez, j'annule le témoignage, parce que bon, ben, je suis déçu, quoi. Ben, voilà. Ma carrière est ratée. J'oublie que c'est une manière d'incarner mon témoignage du Christ, vous voyez. Et puis le sixième sceau nous montre comment, quand l'homme vit selon, voyez, son désir d'être comme des dieux, hein, c'est ça qui a séduit Ève, hein, vous serez comme des dieux, et donc elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, toute la création est comme pervertie dans son sens. Vous voyez ce que je veux dire? Plus rien n'est à sa place. Donc le soleil n'éclaire plus, les îles ne sont plus à leur place, la fécondité, elle n'aboutit pas. Tout est utilisé d'une manière erronée, perverse, si vous voulez, anti-finalité. Donc c'est pour ça que le sixième sceau vous montre, vous voyez, le soleil devient noir. Normalement, le soleil, c'est pas noir. Le soleil, c'était pour éclairer. Quand je fais de ma raison à moi le soleil, c'est-à-dire l'orgueil, c'est l'orgueil qui fait ça, eh bien, je me trouve dans le noir. Vous comprenez? Quand je quitte le Christ comme étant mon soleil, en croyant que mon intelligence va pouvoir tout éclairer, je me retrouve dans le noir. C'est un soleil qui est noir. Je ne sais plus même plus où j'en suis. Quand je dis que le ciel a disparu, les monts et les îles s'arrachèrent de leur place... Vous voyez, quand on fait une carte, comment on situe les choses en fonction des points géodésiques, vous voyez, dans les monticules et tout, plus rien n'est à sa place. On sent bien ça dans notre jour. Regardez nos jeunes, qu'est-ce qui est structurant de la réalité? Plus rien n'est à sa place. Vous comprenez ça? Donc c'est exprimé sous une forme géographique et symbolique du fait que finalement l'homme pervertit toute la finalité de son propre être et même de son milieu. Et il se trouve dans l'angoisse. Ils allèrent se terrer dans les cavernes parmi les rochers des montagnes. Et alors là, il y a au chapitre 7 une vision extrêmement importante des 144 000 et d'une foule immense que nul, vous avez vu la foule des élus, hein, il n'y a pas les 144 000 dans les appels. Vous voyez qu'il y a 12 000 de chaque tribu et en même temps après il y a une foule immense que nul peut dénombrer. C'est une vision très importante. À mon avis, c'est la place du sacerdoce royal des fidèles pour le salut de tous nos frères les hommes. C'est l'épouse qui œuvre avec l'époux pour le salut du monde. C'est-à-dire, normalement, on dirait formellement, quand je suis baptisé et que j'ai demandé le baptême, je veux être directement incorporé au Christ. Et donc, je vais œuvrer dans le sacerdoce même du Christ pour sauver le monde. Nous sommes là pour être dans le Christ les sauveurs de nos frères. Hein, c'est la coopération dans l'amour. Le Christ est sauveur avec le Christ. Le chrétien est sauveur avec le Christ. Comme Marie est la première qui coopère au salut, qui est l'œuvre de l'amour du Christ agneau en croix. Donc c'est pour ça que vous avez à la fois 12 000, c'est une perfection, mais c'est limité, vous voyez, et en même temps une foule immense. C'est-à-dire que la miséricorde n'a pas de limite, mais elle ne se fera pas sans nous. Et donc, c'est ça la responsabilité de l'Église. Les 12 tribus, donc fondées sur les 12 apôtres, 12 000 de chaque tribu. Et puis après, le 7e saut, alors un silence d'environ une demi-heure. Et alors, on va voir, ça c'est la prédestination. Et après arrive le cycle des 7 trompettes. Vous avez vu les premières, deuxième, troisième, quatrième trompettes, vous vous rappelez? C'est l'exécution de ce qui était jusque-là une prédestination. Hein. Si vous êtes prédestiné à quelque chose, après il faut que ça s'exécute. Hein. C'est comme un projet qu'il faut exécuter. La trompette, c'est on y va. Pop, 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 pop. Allez, on y va. Hein. C'est l'exécution. L'exécution de ce dessein d'amour. Ce que nous verrons dans une demi-heure. D'accord. Ça va? Ça va à peu près, ce rythme, c'est un peu rapide, mais ça vous donne une petite... Voilà. Et après, nous verrons au chapitre 12 le lieu très important du sens profond de la lutte. Parce que tant qu'on n'a pas le sens de la lutte, on est dans le brouillard. Pour pouvoir être vainqueur, il faut avoir une intelligence de la lutte. Il faut voir de quoi il s'agit. Et quel est l'enjeu? Si vous ne voyez pas quel est l'enjeu, vous battez dans le noir, au hasard. Donc si vous voulez, vous pouvez venir, ou si vous voulez vous détendre, vous êtes libre, enfin vous faites comme vous voulez. Cinq heures et demie, on se retrouve. Hein. Pardon.